M.
Le goût de M.
M. Le magazine du Monde présente Le goût de M. Un podcast produit par Géraldine Saratia qui vous entraîne à la découverte du goût d'une personnalité.
Qu'est-ce qu'avoir du goût ? Qui a bon goût, mauvais goût ? Et puis d'abord, comment se forme le goût ? Cette semaine, on part à la découverte du goût de Vincent de Dienne. Il est comédien, humoriste, il a également été chroniqueur. C'est d'ailleurs ainsi que beaucoup l'ont découvert sur France Inter ou Canal+. On se souvient de ses bios interdites d'invités politiques dans le supplément de Maïtena Biraben, ou encore de ses revues de presse, drôles, parfois absurdes, dans le quotidien de Yann Barthès. Aujourd'hui, Vincent de Dienne s'est recentré sur la scène, sur le jeu. On continue bien évidemment de le voir au théâtre, sa grande passion. On l'aperçoit de plus en plus souvent sur les écrans de cinéma, bien évidemment dans les formidables one-man shows qu'il écrit et interprète. Après S'il se passe quelque chose, un premier spectacle d'inspiration autobiographique il y a quelques années, Vincent de Dienne revient aujourd'hui avec Un soir de gala, un nouveau one-man show qu'il a rodé au Bouffe du Nord en janvier et qui s'apprête à partir en tournée dans toute la France. De Dienne s'éloigne du jeu J.E. qu'il avait fait connaître et convoque toute une galerie de personnages pour parler de l'époque, de notre société, mais aussi de la nostalgie, du temps qui passe. Alors c'est drôle, mordant, et surtout infiniment poétique. Allez, on se dépêche, on a rendez-vous chez lui, on entre au fond d'une cour, dans le 11e arrondissement, non loin de Belleville, on y est.
Bonjour.
Bonjour. Entrez, je vous en prie, entrez.
Merci.
Hop là, vous pouvez garder vos chaussures. Attention la main, c'est une petite mince très traite. Soyez les bienvenus.
Alors Vincent de Dienne, on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici ?
C'est le premier appartement que j'habite, que je réussis à habiter, parce que les appartements précédents, je n'ai jamais réussi à meubler, je bougeais les meubles, je rachetais des trucs et c'était jamais satisfaisant. Et là, c'est le premier où je me sens vraiment chez moi, où c'est-à-dire quand je rentre et que je ferme la porte, je sens que je suis dans un espace, je ne sais pas s'il me ressemble, mais en tout cas, il me correspond, il me va, il me rassure. Où que je pose mon regard, je tombe sur quelque chose qui me va bien.
Comment vous le décririez pour les gens qui nous écoutent ?
Ben, il est vaste. C'est une grande pièce qui fait et salon, et salle à manger, et bureau. C'est pas un espace qui est très simple à moduler, mais dans lequel je me sens bien.
On s'est assis au milieu de la pièce à vivre, autour d'une grande table littéralement insérée dans des colonnes, et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
Moi, je dirais quand même que c'était le goût de... Vraiment le goût de la campagne, quand même. Ces odeurs-là, le goût du temps, c'est-à-dire du temps qui passe, de la sensation de ce temps-là qui passe, des après-midi un peu longues. En plus, c'était quand même un peu la solitude, parce que j'étais fils unique. Je n'avais pas de chat qui hurle comme ça. Si, j'avais un chat, d'ailleurs, qui s'appelait Pilou. Michoc, viens là. Et oui, c'était la solitude aussi. Donc ouais. C'était un peu le goût de l'ennui. Mais de l'ennui pas pesant, pas pénible. L'ennui assez agréable parce qu'il donne une plage d'imagination quoi, à avoir.
Oui, parce que vous avez grandi en Saône-et-Loire, à Luny ou à Cruzy.
Ouais, Cruzy.
Tout près de Luny, donc un petit village, c'est ça ?
Ah ouais, tout petit village, 300 habitants, je crois. Même pas de café, pas de boulangerie, rien. Tout petit, un clocher, une salle des fêtes et basta.
Et alors, ça ressemblait à quoi, la maison ou l'appartement dans lequel vous avez grandi ?
Le tout premier appartement, c'était un... Mais vraiment, j'ai passé peu de temps, mais c'était un appartement dans un... Ça s'appelait le HLM, sauf que c'était un tout petit HLM. Il y avait deux étages et il y avait quatre appartements dans ce HLM. Mais c'était un espèce d'appartement de fonction que mes parents avaient parce qu'ils travaillaient là où ils ont travaillé toute leur vie, un IME, un institut médico-éducatif. Donc voilà, où mon père était instituteur spécialisé et ma mère éducatrice spécialisée. Et du coup, ils avaient ce petit appartement en attendant d'acheter la maison qui était un peu plus loin dans le village où j'ai vraiment tous mes souvenirs d'enfance et où ils vivent encore aujourd'hui. Et c'était une grande maison qui était un ancien café pendant la Résistance, le café Chevenet, Et voilà, avec un jardin, avec une cour, avec très peu de voitures qui passent, des voisins, monsieur et madame Bolusset. et j'ai souvent entendu mes parents dire, bah voilà, on est vraiment... Notre vie est résumée comme ça, parce que d'un côté de la maison, il y avait la vue sur le château, justement, donc qui était cette école où ils ont travaillé toute leur vie. Et de l'autre côté de la maison, il y avait la vue sur le cimetière. Donc ils disaient, ben voilà, on va passer de l'un à l'autre. Ma mère disait ça avec l'ironie et le cynisme.
Ouais. Et entre les deux, s'il se passe quelque chose, c'est bien.
Et voilà, c'était ça, exactement.
C'est un peu ça. Et à l'intérieur, ça ressemblait à quoi, cette maison ?
Des tomates, des grosses tomates dans le salon, du chauffage au sol. Alors ouais. Ça, c'est vraiment un grand souvenir de joie, le chauffage au sol,
c'est
l'hiver.
Vrai ?
Ah ouais, parce qu'on pouvait se promener pieds nus. Des poutres, beaucoup de poutres au plafond, un salon camif... Un éternel salon Camif, voilà, parce que mes parents étaient à la MGEN et avaient droit
le catalogue de la Camif.
Exactement,
ouais.
Voilà. Qu'est-ce qu'on avait ? Oui, beaucoup de bois, quoi, des gros meubles bourguignons, quoi, c'est-à-dire des grandes armoires bourguignonnes, des tables, des chaises, tout en bois, assez lourd. Et puis voilà, puis moi j'avais mon petit coin, j'avais une mezzanine, alors déjà j'adorais ce mot. J'avais une mezzanine où je mettais toutes mes cassettes VHS et tous mes enregistrements de télévision et tout ça, mes BD, les livres. Et puis moi j'avais mon coin, j'avais ma chambre. Avec, comme j'avais pas réussi tellement à choisir la tapisserie de la chambre, il y en avait un peu deux. Différentes, qui n'allaient pas ensemble, voilà, qui formaient quelque chose d'assez mauvais goût, pour le coup.
Et pour vos parents, ça avait une importance, l'intérieur de la maison ? Ils apportaient un soin ou c'était plus fonctionnel ?
Si, ma maman a toujours pris soin quand même de fleurir la maison, d'avoir des beaux tissus. Et mon père, moins. Mon père s'en foutait un peu, mais... Non, et puis même, on n'était pas très... on allait faire les courses le samedi, mais on allait à Mammouth ou à Auchan. J'ai pas du tout de souvenir de grands moments de shopping avec mes parents où ma mère cherche le bon meuble, le bon lustre, le bon bibelot, la bonne déco. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais mes parents travaillaient énormément. Donc, ils avaient très peu de temps... Ah voilà, alors là, ce qu'on entend également, là, c'est mon deuxième dégât des eaux. Car vous arrivez à un moment où j'ai trois dégâts des eaux différents chez moi. Et alors là, puisque c'est un podcast sur le goût, ça tombe bien, puisque ce sont malheureusement les eaux usées de la voisine du dessus, qui régulièrement tombent sur mon plan de travail. Voilà.
D'accord.
Donc si on entend des gouttes régulièrement, c'est ça.
D'accord.
Malheureusement,
d'accord.
Parce qu'un travail...
Vous disiez
que mes parents travaillaient beaucoup.
Ouais. C'était quoi leur goût, en fait ? Votre père, par exemple, qu'est-ce qui l'intéressait ?
Mon père est un ancien chasseur alpin.
Ouais.
Donc il a toujours aimé le sport, la montagne, le ski, les randonnées, marcher et la chasse. Mais la chasse vraiment molle, c'est-à-dire vraiment plutôt les pique-niques et les coups de blanc à 10h du matin avec les copains plutôt que vraiment tirer sur des gens.
Des bêtes.
Des bêtes. Voilà, moi, il ramenait assez peu de gibier les dimanches midi, mais bon. Et voilà, mais c'était le travail, quoi. Vraiment, ils étaient vraiment un peu engourdis par le travail. Ça prenait beaucoup de temps, beaucoup de place.
Ils aimaient
leur
travail.
Ils ont beaucoup aimé Oui. Ma mère, j'en suis sûr. Ma mère, elle était vraiment passionnée par les enfants dont elle s'occupait, passionnée par les relations, comment les rendre ces gens heureux. Ce qui fait que parfois, j'ai eu, moi, un petit sentiment de jalousie, quoi. C'est-à-dire, elle passe quand même beaucoup plus de temps avec les enfants avec lesquels elle travaille qu'avec son propre fils. Des fois, je me souviens qu'une fois, je m'étais coupé les cheveux. J'avais demandé à la coiffeuse, j'étais petit, hein, j'avais demandé à la coiffeuse de me couper les cheveux très courts. Et je m'étais faufilé dans la queue du bus des gamins du château, là. Et je m'étais mis parmi ses élèves et elle m'avait confondu, quoi. Elle m'avait pas reconnu. Et je me demande si maintenant je l'avais pas fait exprès, quoi. Je voulais être un peu considéré comme ces enfants qui prenaient beaucoup de place, je trouvais. Donc voilà. Et ma mère, elle aimait son travail. Il y avait de la place pour la télévision.
Ouais.
C'est-à-dire les films du dimanche soir, les films français, les émissions, mais on n'allait pas beaucoup ni au cinéma, ni au théâtre.
Oui, la culture, elle arrivait principalement par la télé, radio.
La radio, oui. La radio, Europe 1. Europe numéro 1.
Et les chansons aussi ?
Les chansons dans la voiture, dans Radio Nostalgie à fond, dans la R21, puis dans la Laguna. Oui, sinon pas tellement de musique, pas tellement de poste pas de vinyle ou pas de cassette comme ça qu'on mettait dans la maison. En fait, il a fallu attendre que mes parents soient en retraite pour que je commence à voir mes parents lire beaucoup, aller un peu au spectacle, aller un peu au cinéma.
Il y a une question, vous l'avez dit dans les interviews, puis dans votre spectacle, que vous aviez été adopté par vos parents quand vous aviez 5 mois, qu'en fait vous l'aviez appris ensuite, je crois, un jour à l'école, puisqu'il y a un élève, enfin la maîtresse avait dit qu'un des élèves avait été adopté, vous l'avez dit à votre mère qui vous a dit, vous,
bah toi aussi. Ouais. Et puis vous dites, bon, on en a jamais reparlé. Cette question de l'origine, en fait, vous la trouvez pas intéressante, en fait ?
Non, moi, ça m'a jamais. Je n'ai jamais eu de curiosité. C'est-à-dire que, en fait, à chaque fois, on m'a dit, mais est-ce que t'as pas voulu faire des recherches ? Est-ce que machin ? Et un jour, j'ai failli en faire, mais un peu parce que on me disait tellement, fais des recherches. Enfin, c'est bizarre. Ouais. Mais un jour, je me suis écouté, je me suis dit, mais non, en fait, je n'ai vraiment pas envie de savoir, j'ai pas du tout la curiosité. Si j'avais l'info, elle me serait un peu encombrante, je pense. Et après, ça m'a interrogé, ce manque de curiosité. Je me suis dit que c'était pas seulement un manque de curiosité pour moi, mais qu'en fait, d'où viennent les gens, de quoi les gens se sont issus ou se sont extirpés, ou ça m'intéresse, mais pas plus que où ils vont ou... Pas plus que d'autres choses, quoi. Je trouve pas ça fondamental.
Pas plus que ce qu'ils en ont fait, quoi.
Ouais, non, ouais. Exactement.
Parce qu'en même temps, l'enfance, enfin, on va en parler après, parce que c'est dans votre spectacle, ça affleure. Enfin, c'est un endroit que vous trouvez important. Vous n'êtes pas du tout de ceux qui disent l'enfance, on s'en fiche, on peut la réécrire complètement. Enfin, vous avez la sensation que c'est quand même important dans la formation d'une personnalité, de ses goûts, de tout ça.
Oui, c'est vrai, mais bon. Là, d'un coup, je pense à une interview de Duras où elle répondait, oui, bon, mais comme toutes les enfances. Toutes les enfants, c'est-à-dire qu'effectivement elles sont toutes singulières, mais bon. Mais c'est vrai que je trouve qu'on ne s'en remet jamais de son enfance. Ça, c'est sûr. Je trouve que c'est.
C'est Barbara, quoi.
Non, mais oui, c'est vrai. Mais même si elle est heureuse, en fait, ouais, une enfance heureuse, c'est quand même quelque chose dont il faut s'exiler un jour, et cet exil-là, et je trouve vraiment pénible et douloureux, et est un arrachement, et bon. Mais c'est la question du sang. On a toujours dit à ma mère, ça c'est bien ton fils. Hein. Ah bah ça se voit que c'est ton fils. Parce que
les gens ne savaient.
Oui. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on se ressemble, même physiquement on se ressemble. Et puis moi je suis vraiment le produit de ces deux personnes-là. Hein. C'est-à-dire que, en fait, je ressemble bien plus à mes parents adoptifs qu'à mes vrais parents, même si je ne les connais pas. Mais je trouve qu'on fait beaucoup de promotion pour le sang et pour la génétique et pour tout ça, alors qu'en fait la culture et l'éducation, quoi, voilà, c'est fondamental.
M, le magazine du monde présente. Le goût de M.
On est où, là, Vincent ?
Bah là, on est dans le bureau. Je me suis toujours fantasmé à mon bureau, écrivant à mon bureau, répondant à mon courrier à mon bureau. J'y suis jamais.
Qu'est-ce que c'est, ça ? Racontez-nous.
C'est un bonhomme Haribo. Et c'est les bonhommes de boulangerie, là, avec les tiroirs. Et tout là, donc il y a les frites. Il y a les frites qui piquent, il y a les crocodiles, il y a les bananes, il y a les œufs au plat. Ouais. Et on m'a offert ça, parce que j'adore les bonbons. Et qu'il est jaune et que j'adore le jaune. J'aime beaucoup le jaune.
Et puis alors ça, quand même, un flipper.
Et un flipper, ouais. C'est comme un jeu de société, mais auquel vraiment on peut jouer seul.
Ouais.
Donc moi, c'est quand même pratique pour moi. Donc voilà, c'est un petit flipper, un flipper, comment on appelle ça, mécanique, quoi. Un vieux, hein, il est très vieux. Hein. Ah. Voilà, il fait un bruit que j'adore. Et voilà, bim. Donc voilà, et ça me détend extrêmement, ça. C'est génial. À la moindre tension, une petite partie flipper, ça détend.
Vous, vos goûts à vous, ça a été quoi ? Qu'est-ce qui vous a intéressé, aussi loin que vous vous souveniez ?
J'ai quand même l'impression que le démarrage, ça a été les livres. D'abord la bande dessinée, parce que j'ai appris à lire grâce à la bande dessinée, c'est-à-dire qu'en fait j'étais quand même beaucoup dans mon coin. Comme mes parents m'ont eu tard, m'ont adopté tard, j'étais dans la famille ou même dans les amis de mes parents, j'ai toujours passé du temps avec des gens plus vieux. Les enfants des copains de mes parents étaient beaucoup plus vieux que moi. Donc, ils savaient déjà lire, j'étais déjà un peu quand même dans mon coin, parce que j'étais pas de la même génération tout à fait. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec des bandes dessinées dans les pattes, ou des livres, et il se trouve que j'ai appris à lire seul. C'est-à-dire, à force d'avoir des bandes dessinées, de regarder, un jour, je suis arrivé à l'école et j'ai dit... à l'instituteur, monsieur Jean-Paul Richy, que j'adorais, je lui ai dit, je sais lire. Donc, il m'a pas cru et il m'a dit, ah bah, non, ça, non, tu ne sais pas lire à ton âge. Je lui ai dit, bah, si, j'ai appris à lire là ce week-end. Il m'a dit, bah, si tu me lis ça, tu sautes une classe. Et c'était une carte postale et il y avait marqué, elle venait du Jura. Et donc, j'ai dit, bah, là, il y a marqué Jura. Il a convoqué mes parents le soir même en disant, bon, bah là, il faut lui faire sauter une classe parce que malheureusement, il sait lire.
Malheureusement.
Il va s'ennuyer. Et donc, oui, voilà, j'ai le souvenir que ça a commencé comme ça, les bandes dessinées et très vite aussi les jeux de société. C'était tous les jeux de société dont il y avait les pubs à la télévision au moment de Noël. C'est-à-dire que je voulais tout avoir. Je voulais avoir le Cluedo, le Monopoly, la Bonne Paye, le Docteur Maboule. Là, j'en ai encore. Là, j'ai quoi là, Ah bah puis même les vieux trucs, ouais, des chiffres et des lettres. Mais il y en a plein. J'ai un placard entier de jeux de société.
Mais vous, en plus, ce qui est drôle, c'est que vous jouiez seul, quoi. Vous jouiez donc, moi, contre voilà, vous-même.
Moi, ouais. C'est-à-dire que je voulais quand même tous les jeux. Mais après, il fallait forcément être au moins deux pour y jouer, et j'étais jamais deux parce que mes parents, déjà, ça les emmerdait de jouer aux jeux de société, puis ils avaient pas le temps, puis j'étais avec la nounou qui voulait pas jouer, donc je dépliais quand même tout, j'installais tout, le plateau, le machin, le Monopoly. J'ai souvenir d'avoir réussi à inventer une façon de jouer seul au Monopoly en faisant la banque, en réinventant un peu tout. Je réécrivais, ça a été mes premières réécritures et mes premières mises en scène. Ouais. Comment réussir quand même à jouer au Cluedo alors que t'es seul et que a priori tu sais que c'est Madame Pervenche puisque c'est toi qui a mis la carte dans le truc.
C'est dur quand même.
Mais bon, je sais pas, c'est des bons souvenirs. Donc ça a été ça. Et puis après, un peu plus tard, le début du spectacle et du cinéma. Mais ça, c'est plus tard, c'est plus à l'adolescence.
Ouais, ouais. Quand vous avez écrit votre premier spectacle avec votre ami
Oui,
c'est ça, vers quoi, ouais. 14 ans.
Ouais, c'est ça, ça doit être ça. Ouais, on a essayé d'écrire des sketchs. Oui, parce qu'on était fans de Muriel Robin, Pierre Palman, Michel Larocque, tout ça. Puis on avait envie aussi de... Il s'appelle Arnaud Perron. Et il est comédien aujourd'hui encore. Et on écrivait parce que on avait eu accès à ça, à part la télévision, au spectacle, au one-man show, à ce truc. Elles étaient très gaies, les cassettes VHS des one-man show à l'époque. Elles étaient toutes pareilles, elles étaient toutes jaunes. Donc on les achetait et on les regardait ensemble et puis c'était vraiment la fête, quoi. C'était voir quelqu'un seul en scène en train de faire rigoler des salles entières, c'était surexcitant.
Ouais, donc vous aviez fait votre Mierno Michoco dans un PMU, oui. C'est ça, de Pont de Vaux en Bresse.
Exact, voilà. Exactement.
Premier succès.
Ah bah triomphe. Hein. Ouais. Ouais,
mais c'est rigolo parce que dans les interviews, quand vous parlez de votre adolescence et tout ça, on a l'impression tout d'un coup d'être, dites-moi si je me trompe, mais on est un peu dans une BD de Riyad Satouf, quoi. Enfin, vous dites tout d'un coup, j'avais les cheveux très frisés, j'étais acnéique, j'avais un appareil,
ouais,
enfin,
oui,
on est dans les beaux gosses, quoi. Enfin,
ah, ouais, c'est vrai, exactement.
Et,
ouais.
Et voilà, vous dites, bon, bah, j'étais bon élève, doué, mais acnéique.
C'est un chemin, Riyad Satouf et le grand chemin.
Ouais.
Un peu mon adolescence.
Et vous en aviez conscience de ça, de ce sentiment de se sentir moche, de se sentir.
Ah oui, bah, je sentais que. Bon, de toute façon, l'école, c'est redoutable hein, pour ça. Hein. On est très vite fixé hein, sur notre place dans le classement des beaux garçons ou des gens attirants. Et moi, j'étais très, très vite senti que j'étais fond de cours, quoi. Que j'étais vraiment. Et Arnaud, c'était pareil. D'ailleurs, Arnaud, il était un peu gros, il était un peu moche. Moi, j'étais extrêmement boutonneux. J'avais un appareil dentaire, j'avais des cheveux insensés. J'étais pire que Vincent Lacoste dans les beaux gosses. Donc, il a fallu être populaire autrement.
Ouais, il y a un recours à l'imaginaire et puis
à l'humour. Ouais. Ouais. Très vite aux blagues, à être le plus drôle. Voilà, c'était pas possible d'être le plus beau, donc il fallait être absolument le plus drôle pour avoir
un petit statut social, quoi.
Exactement.
Et vous, du coup, même dans la cour de récré, vous rejouiez des sketchs de Muriel Robin, c'est ça? Parce que Muriel Robin, c'était votre idole, en fait.
Quand je l'ai découvert, j'ai adoré cette. Du moment où je l'ai vu apparaître sur l'écran, j'ai voulu m'en faire une amie et j'ai voulu un jour faire le même métier qu'elle et même qu'elle soit dans la salle et qu'elle soit fière de ce que ça m'a donné un boost, quoi.
Vous l'avez découvert assez tôt, c'est ça, vers 7-8 ans?
Je pense 7-8 ans, à Noël, comme ça, ma tante qui a offert une cassette vidéo à ma grand-mère. Ma grand-mère qui en avait rien à faire. Et c'est moi qui ai récupéré la cassette.
Et est-ce que vous savez pourquoi elle vous a autant plu? Qu'est-ce qui, dans son humour, vous plaît autant, vous touche autant?
Je crois que je sentais tout ce qu'elle y mettait de pas drôle derrière. C'est-à-dire que je voyais bien que c'était hilarant, que ça allait à toute allure. J'adorais ça, j'adorais le vertige de la vitesse et du rythme et de la parole et de la colère aussi. Mais je sentais ce qu'il y avait de pas drôle derrière. Je sentais ce qu'elle mettait en jeu. Je sentais à quel point elle voulait nous faire oublier qu'elle était au bord d'un gouffre, ouais. Et que nous aussi, potentiellement, on l'était. Mais bon, c'était vraiment impalpable. Hein. Mais je sentais que parfois, mais même quand je re-regarde le spectacle Tout Robin, je vois qu'en fait, à des moments, elle a des regards très tristes. Donc je pense que ça me parvenait. Comme parfois, les clowns happent les enfants parce qu'il y a quelque chose d'aussi très inquiétant. Derrière un nez rouge et derrière le maquillage, c'est quand même, on est au bord de l'épouvante,
ouais.
Avec un clown. Et là, il y avait ça chez Muriel, c'est-à-dire que c'était discret, mais j'ai l'impression que ça m'a atteint, quoi. Et puis, c'était une langue qu'on ne parlait pas chez moi. C'était quand même une langue très marquée, hein, Muriel. Hein, c'était quand même, il y avait Saint-Étienne, hein, même si elle était déjà très parisienne et très populaire et tout ça, il y avait encore des expressions qui n'existaient qu'à Saint-Étienne, même des expressions inventées par sa mère, qui étaient peut-être pas des expressions du coin. Mais donc c'était quand même une langue qu'on ne parlait pas chez moi, mais que j'ai aimé comme une langue étrangère, comme si on se promène d'un coup à Amsterdam et qu'en fait le néerlandais nous fait une musique agréable à l'oreille. Ouais. Ben moi, ça m'a fait pareil avec la langue.
Elle avait sa petite musique là pour le coup. Ouais.
Qui est celle de Muriel et de Pierre.
De Pierre Palmade, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ça donne Muriel Robin en fait. Enfin, votre amour pour Muriel Robin, ça donne l'occasion de parler d'un truc que je trouve super intéressant, c'est le être fan, le fanatisme. Enfin bon, être fan de quelqu'un. Parce que vous avez été énormément fan.
Énormément.
Et donc, on sent que chez vous, la fascination, ça a été un ressort très important de développement, de lien aux autres et de formation de vos goûts.
Exactement. De lien aux autres, ça c'est très vrai, parce que c'était aussi mes goûts, comme ça, mes appétences pour des gens, c'était ce que j'aimais partager. Et j'aimais beaucoup faire découvrir Joe Dassin, Muriel, plus tard Guibert, plus tard Zouk, plus tard Sylvie Joly, Anne Sylvestre, tout ça. Oui, c'est vrai, c'est des choses qui... On pense souvent fanatisme, on imagine un mec un petit peu triste, un petit peu moche, reclus dans sa chambre avec ses posters. Mais en fait, c'est pas vrai, c'est aussi des sésames pour l'altérité, pour aller découvrir l'autre, pour aller faire la conquête de quelqu'un. Moi, je me suis servi de mes passions pour des gens, pour draguer, pour avoir des relations amoureuses.
Mais parce que
sexuelle.
Vous aviez envie, parce que je pense qu'il y a plusieurs degrés de fans ou plusieurs types de fans différents, en tout cas, vous aviez envie de que ça se matérialise dans la vie réelle, entre guillemets, que vous rencontriez ces personnes.
Ah oui, moi j'aurais été du genre, si j'avais mal tourné, j'aurais été du genre à dormir sur le paillasson des gens.
Comme les fans de Mylène Farmer, quoi. Enfin, rester devant chez elle.
Ouais, déjà, moi j'arrivais très tôt au spectacle, j'étais au premier rang, il fallait absolument que je sois au premier rang. J'aurais pu me battre pour si on avait voulu me doubler. C'était le début d'Internet. Et donc, je cherchais tout ce que je pouvais sur Internet, mais même, il a dû m'arriver de taper dans Google adresse Laurence Boccolini, hein. Je pense, parce que j'aurais très bien pu aller voir où est-ce qu'elle habitait, parce que j'adorais Laurence Boccolini. Mais, je sais pas, ça me donnait un but et une direction, quoi. Voilà, je me disais, Muriel, Agnès Jaoui, j'avais le sentiment que c'était des gens bien, déjà. Donc ça me donnait
le père Foura aussi.
Le père Foura, également. Mais ça, j'ai été très déçu.
Ces gens à qui vous avez écrit, en fait, quoi.
Oui. Ben oui, Agnès, j'ai envoyé des... Là, j'ai retrouvé, il y a une photo, là, d'une avant-première à Lyon. J'avais écrit une lettre à Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, et puis parce que je m'étais choisi quand même, c'est-à-dire que j'étais pas fan de Maurice Papon, quoi. Je m'étais choisi quand même des gens dont je sentais que c'était des chic filles.
Ouais,
et
des gens à qui vous aviez envie de ressembler d'une certaine façon.
Oui,
c'est ça.
Exactement, j'avais envie d'être digne d'eux.
Ouais, c'est un idéal aussi, parce que ce qui est assez beau et touchant aussi, c'est que vous dites que quand vous avez rencontré ensuite Muriel Robin, puisque vous l'avez rencontré, vous avez ressenti, bon, j'imagine, une joie, mais aussi une très grande tristesse, de comme quand il y a un idéal qui tombe. C'est-à-dire, maintenant, je vais rêver à quoi ?
Eh ouais, c'était affreux. J'ai vraiment eu ce sentiment, en rentrant chez moi le soir, que tout ce vers quoi ma vie était tendue jusqu'à maintenant, mais depuis la plus tendre enfance, venait de s'exaucer et de se réconcilier, parce qu'il y avait quand même une grosse frayeur. En fait, ma vie entière jusqu'à ce jour-là, elle était menacée par le fait que peut-être je n'y arriverai jamais, que peut-être je ne deviendrai jamais humoriste, que peut-être je ne rencontrerai jamais Muriel. Et donc ce soir-là, oui, j'ai eu l'impression, le sentiment que j'avais, c'était que le petit garçon en moi, me tapait dans la main en disant bravo, mais mourait en même temps. C'est-à-dire que il disparaissait. Et je me suis retrouvé un peu, oh merde, alors maintenant je suis grand, je n'ai plus ce petit enfant en moi qui me donne cette direction-là, qui me donne un peu comme à Mario Kart, quoi, des boosts. Je sentais que j'avais des petits trucs magiques, quoi, pour aller plus vite. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire ?
Alors, il y a d'autres femmes qui ont été hyper importantes pendant votre adolescence, en dehors de Muriel Robin. Enfin, Muriel Robin, c'est super important parce que c'est son one-woman show qui vous a emmené au théâtre, finalement. Mais les autres femmes dont je voulais parler, c'est vos profs, en fait, de littérature, les profs de lettres, en fait, de français. Profs de français, c'est beaucoup des femmes.
Ouais.
Et vous dites, elles m'ont vraiment ouvert l'accès aux textes, en fait, enfin, donné l'amour des textes. Et ça a été un truc très important dans votre parcours.
Ah bah oui. Ça a commencé par Madame Karine Lambolaise au collège, qui nous faisait étudier beaucoup de choses. Mais je me souviens qu'elle nous avait fait étudier une chanson de Souchon, Tailler la zone. Bon, ça, fallait déjà avoir l'imagination hein, d'aller faire étudier ça à une classe de troisième. Et donc là, tailler la zone, je sais pas, ça m'a tout de suite parvenu, quoi, frapper la poésie, le décalage aussi, le fait de décaler les choses, d'essayer d'écrire mieux que comment la vie était écrite. Je sais pas, ça m'épatait, quoi. Je me disais, c'est vraiment des exploratrices, les meufs. Elles partent devant, elles emmènent toute leur classe derrière, elles disent, suivez-moi, on va ouvrir Chrétien de Troyes, Perceval le Gallois, ou alors Un roi sans divertissement, et on va y découvrir des trésors. Et elles étaient tellement fortes qu'on suivait, quoi. On suivait tous et et on trouvait une figure de style, page 24, et on avait l'impression que c'était une mine d'or.
Parce qu'après, bon, vous avez fait, donc, justement, grâce à Madame Lombolaise, vous avez fait cette option théâtre au lycée, en fait. Mmh. Et ensuite, vous avez, après votre bac, vous êtes inscrit en art du spectacle et en lettres. Mmh. Et puis, vous avez poursuivi les études de théâtre jusqu'à intégrer une école nationale à Saint-Étienne.
Et là, c'était que du théâtre toute la journée, que vraiment jouer la comédie. Et lire et découvrir le théâtre, quoi. Découvrir le théâtre classique, le théâtre contemporain, des auteurs. Là, c'est ça, c'était vraiment la fête. Hein.
Là, c'était une époque très importante, justement, de formation de votre goût en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène.
Oui, ben, déjà, assez vite, je me suis un peu trahi. C'est-à-dire que moi, dans une école nationale d'art dramatique, on ne peut pas parler de Pierre Palmade et de Muriel Robin. On ne peut pas dire qu'on aime l'humour, on ne peut pas dire qu'on aime les one-man shows, parce que c'est quand même très suspect, puis c'est boudé.
Il y a un snobisme.
Oui. Il y a l'idée que c'est pas vraiment du théâtre, et que ce ne sont pas vraiment des écritures, et que ce ne sont pas vraiment des acteurs.
Tout ce qui passe au point virgule, c'est pas intéressant.
Ah bah oui. Ouais, non. Ouais. Moi, j'étais vraiment le seul à aller et au point. Mais en même temps, je les épatais un peu, puis j'étais un peu un drôle de numéro, parce que moi, je disais, je peux très bien aller le mardi au point virgule et le mercredi à la colline, hein. Mais la colline, j'y vais autant que vous, je comprends autant que vous, mais ça m'empêche pas d'avoir la curiosité d'aller voir, je me souviens, j'étais allé voir Alex Lutz qui commençait, c'était vraiment au tout début au point virgule. Mais là, dans ma promo, les gens étaient vraiment sidérés, quoi. Ils étaient accablés, quoi. Donc, moi, je me suis formé ça. Je me suis formé dans un petit peu le grand écart, quoi. À essayer de réconcilier des choses a priori irréconciliables.
Ouais, mais ça, c'est quelque chose que vous avez gardé. On va appeler ça quoi? Un éclectisme? Enfin, en tout cas, un goût, un goût pour des choses assez diverses et de les mêler. C'est quelque chose que vous avez gardé, ça?
Oui, parce qu'en plus, par la suite, ça m'a passionné. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que des choses, des ingrédients a priori qui ne vont pas ensemble, font une petite chimie. Mêler Marguerite Duras et Muriel Robin dans un spectacle, ça crée une étincelle. Plus que de marier Marguerite Duras et Marguerite Yourcenar, qui a priori vont de soi. Enfin, vous voyez. Mais même dans ma face, même dans le jeu d'acteur. Par exemple, quand j'ai travaillé Marivaux avec Catherine Hegel, Catherine, elle n'était pas du tout hermétique à ça, au jeu un petit peu, au gag et au jeu outrancier et tout ça. Et puis Laure, avec Laure Calamy, par exemple, on s'interdisait pas.
Oui, c'était les jeux de l'amour et du hasard. Il y avait Laure Calamy dans la distribution, oui. Nicolas Maury,
Clotilde M. Alain Pralon, Arthur Gomez. Et ça, c'était génial, parce qu'elle n'avait pas du tout de chapelle, quoi. Je sais pas comment dire.
Ouais.
Et on s'est autorisé à aller chercher très loin, quoi, dans les propositions.
Ouais, et ça, c'est un truc que vous avez affirmé, quoi, au fil du temps, finalement, de ne pas avoir de chapelle, justement, de pouvoir jouer partout, à la fois dans du théâtre très exigeant, comme on dit, voilà, et à la fois des choses plus populaires.
Par contre, c'est vrai que ça va pas de soi. C'est vrai que j'ai du bol. Je m'aperçois que j'ai du bol. On me laisse encore. Là, par exemple, là, je refais un one-man show en ce moment, mais bon, je le joue au Bouffe du Nord. C'est quand même un théâtre semi-public. Personne n'a jamais fait de one-man show au Bouffe du Nord. Et je continue de recevoir des propositions de metteurs en scène qui montent du théâtre contemporain. Donc je me dis que j'ai... qu'on me l'autorise, quoi, quand même.
Et dans votre nouveau seul en scène, là, donc un soir de gala, donc celui-ci, pour résumer très rapidement, enfin, il n'est pas sur vous, ce qui était l'objet de votre premier one-man show, il est plus une galerie de portraits, il y a plein de personnages qui se succèdent, il y a aussi quelques passages inspirés de votre vie, mais c'est surtout une galerie de personnages, comme ça, un regard porté sur à la fois des gens, la société d'aujourd'hui, et vous dites, ça c'est rigolo, au début du spectacle, je suis une vieille âme. En fait, en gros, vous avez toujours eu des goûts qui étaient un peu pas ceux de votre âge.
On m'a toujours fait remarquer ou renvoyé l'image de quelqu'un d'un peu plus vieux que son âge. À l'école, au collège, j'écoutais beaucoup de chanteurs qui étaient morts, alors que moi, je suis de la génération boys band. Ou alors, je sais plus quoi, Kyo, enfin des trucs que je n'ai jamais écoutés. Moi, j'étais branché sur Joe Dassin, sur Michel Fugain, sur Barbara, sur Brassens, sur Brel déjà. Donc, mais comme si mon âme était plus vieille. Et un jour, quelqu'un m'a dit ça. Il m'a dit, oui, t'es une vieille âme. J'avais jamais entendu cette expression, mais je me suis dit, ah, d'accord. d'accord, c'est peut-être ça alors. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, toujours, je suis moins goulu que certains des gens que je fréquente pour la pop culture, pour l'actualité,
la
pour
nouveauté.
Ce qui se fait, pour la nouveauté, voilà, pour ce qui vient, ce qui est un petit peu frémissant comme ça. Je sens qu'il y a une petite hystérie globale des gens pour, ben voilà, pour ce que va faire Juliette Armanet demain. Alors que moi, c'est vrai que j'aime bien regarder.
Ce qu'a fait Joe Dassin hier.
Ouais, voilà.
M. Le goût de M.
Alors, on passe dans la cuisine,
mais vraiment, vraiment, je me suis acheté ça. C'est comment ça s'appelle? Un Magimix? Moulinex, là, un compagnon.
Un truc super chef.
Voilà. Et en fait, je m'en suis jamais servi, je ne cuisine pas, parce que je me suis dit, tiens, ça va m'aider vraiment à cuisiner, mais je ne cuisine pas, malheureusement. Pourtant, quand je m'y mets, je suis pas mauvais, mais voilà. Et là, j'ai ma petite collection de mugs. C'est pour mes 30 ans. Tous mes amis m'ont offert un mug avec une photo de d'eux et moi. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Donc voilà, ça j'adore, parce qu'ils sont toujours... Arnaud, ça c'est Arnaud, ça, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'est mon ex, donc je le planque un peu. Voilà,
je vais le mettre
plutôt derrière. Voilà, il y a ça, et en fait ça se résume à ça quoi, ma cuisine. C'est des mugs, parce que la seule chose que je fais dans cette cuisine, c'est boire des cafés le matin.
Vincent Dédiane, on est chez vous. Quelle relation vous avez avec les objets qui vous entourent? Est-ce que c'est important pour vous?
Alors moi, je suis extrêmement matérialiste, malheureusement. C'est-à-dire, je déteste qu'on casse mes trucs. Non, je suis épaté par des amis qui disent
« Oh, je m'en fiche. »
Ah, moi, je suis là « Oh putain, ouais, c'est un mug. » Je sais, c'est qu'un mug, mais ça me fait...
Vous êtes attaché.
Ah, je suis attaché. Ouais, je suis hyper attaché. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai des copains qui ne prennent pas soin des choses. Et moi, c'est vrai que je suis un peu maniaque. Et j'adore le soin, globalement.
Apporter aux choses, les choses bien faites.
Oui, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Et les objets, là, qui m'entourent, j'ai pas l'impression d'avoir trop la maladie des gens qui ne peuvent rien jeter, mais quand même, j'accumule quand même beaucoup, trop. Je suis un peu écureuil, quoi. C'est-à-dire que je fais un peu je récolte des choses qui me rassurent. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de photos, il y a beaucoup de visages. Ça, en fait, je me suis aperçu de ça, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de paysages, ou il n'y a pas beaucoup de choses abstraites ou figuratives, quoi. Il y a beaucoup de gens, quoi. Il y a un portrait d'Hervé Guibert, il y a Anne Sylvestre. Bon, voilà, il y a mes amis en photo. J'aime bien vivre entouré de vrais gens.
Hervé Guibert, il a été important pour vous?
Oui, c'est l'auteur capital pour moi. Parce qu'il est tombé à un moment de sortie d'adolescence où, en fait, il écrivait tout ce que j'avais besoin
c'est
de lire.
C'est aussi où il a découvert de l'homosexualité.
Oui, il a découvert de l'homosexualité, du désir, de la sexualité, tout court, de Paris, de la beauté, de la popularité, de la méchanceté, un petit peu.
Oui, il est méchant.
Mes
parents, c'est très méchant.
C'est affreusement méchant. Le livre s'appelle « Mes parents » et la première dédicace, c'est « À personne ». C'est un peu con de la méchanceté et de l'humour. Quand j'ai découvert Hervé Guibert, je me suis dit, oh là là, ben là j'ai un ami, j'ai un amant, j'ai vraiment quelqu'un avec lequel j'ai extrêmement envie de coucher. Donc c'était tout à la fois, quoi. C'était un grand frère, tout. Et puis j'ai découvert la photographie, parce que je ne connaissais pas la photographie. Et lui, et comme il était aussi photographe, il m'a ouvert sur la photographie. J'ai découvert grâce à lui... En fait, j'ai fait comme tous les lecteurs amoureux de Guibert, c'est-à-dire que je suis allé frapper à la galerie Agathe Gaillard. Et j'ai découvert une galeriste, Agathe Gaillard, qui m'a fait découvrir la photographie. D'autres photographes que...
Et ça, c'est quelque chose qui continue à vous intéresser,
ouais,
la photo?
Beaucoup. J'y consacre pas un temps fou, mais c'est vrai que ça fait quelques étés que je vais à Arles, par exemple. J'adore ce festival. Ouais.
Et les vêtements, c'est important pour vous ou pas? L'apparence?
Ah ben, ça a été très important. J'ai souvent été la personne qui s'habillait le mieux. Du lycée, je m'habillais bizarrement, je m'habillais que avec des trucs Tex Avery, non. Mais après, j'ai commencé à savoir m'habiller, mais parce que je me détestais physiquement et qu'en fait, je me suis dit, il faut tout miser sur les vêtements, quoi. Voilà, il faut, quand le produit est avarié, il faut que l'emballage cartonne. Et j'ai été hyper doué. Je sais que j'avais beaucoup de compliments, de gens me disaient, putain, toi, t'as du style et tout ça, machin. J'étais trop content parce que... En même temps, je faisais gaffe, mais en même temps, ça...
Et c'était quoi votre style, alors, justement?
Ben, je sais pas, j'avais un côté un copain qui m'avait dit, mais toi, t'as vraiment un style golfeur du Sahara. Mais c'est vrai que j'aimais bien.
C'était précis.
C'était très précis, mais c'était un peu des tons écrus, sable, du lin, des matières un peu fluides. Enfin, voilà, j'avais un peu l'air d'un festivalier tout le temps, mais c'était assez. C'était un peu singulier à chaque fois, les coupes, les modèles. Et puis, d'un coup, plus du tout.
C'est-à-dire
d'un coup, je me suis rendu compte que j'arrivais plus à m'habiller, qu'on ne me disait plus du tout que j'étais bien habillé, que j'avais raté le coche, quoi, que la mode avait changé et que moi, j'avais pas su prendre le train, quoi, en marche. Et puis alors là, maintenant, je suis largué. Moi, à Paris, là, tu sais, ça va, c'est pareil, ça va trop vite, je sais plus comment il faut s'habiller.
Mais c'est aussi. Ça, oui, parce qu'après, bon, on peut suivre la mode ou pas, on peut avoir son propre style, mais est-ce que ça vous intéresse moins?
Oui, ça m'intéresse un peu moins, je crois. Et puis en fait, j'ai compris que c'était un savoir. Parce que quand j'ai commencé la télévision, j'ai été invité à des défilés. Donc ça, je m'étais jamais dit, tiens, un jour j'irai à des défilés. Mais je me suis retrouvé au Louvre, au défilé Vuitton et tout ça, machin, à des défilés Paco Rabanne, machin. Et en fait, là, je me suis dit, ah, mais, malheureusement, je ne comprends rien. Enfin, vraiment, je savais pas quoi dire. Après, je me sentais vraiment intrus, quoi. J'étais là, j'entendais des conversations, j'entendais Amanda Lear à droite ou Catherine Deneuve qui disait des trucs sur les coupes, sur les tissus. J'étais là, oh, merde, mais moi, je sais pas quoi dire. Moi, je vais juste dire, ah, mais non, ils sont bien habillés. Hein.
On peut quand même avoir un goût, une sensibilité pour le vêtement, en fait. Les matières.
Oui, mais je sais pas si je l'ai. Peut-être que je me repassionnerai un jour pour les vêtements, mais il faudrait que la mode masculine soit un peu plus.
Elle a évolué en plus.
Elle évolue, mais oui, mais dans la vie de tous les jours, on voit bien que les gens ne s'autorisent pas non plus énormément de fantaisie, quoi. Et en plus, maintenant, dès que tu es un peu connu, sortir avec un truc un peu fantaisiste, ça fait vraiment le type qui a vraiment envie de se faire remarquer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si demain, plus de garçons s'autorisaient à porter plus de couleurs, plus de formes, plus des choses plus marrantes, là, je serais le premier à m'engouffrer, je pense. Là, j'adorerais.
Quel type de goût vous plaise d'une manière sensible? Si on parle, vous aimez quoi? Vous aimez le sucré? Vous aimez le salé? Vous aimez quoi?
Ben, j'ai changé. C'est-à-dire que j'étais extrêmement gourmand. J'aimais beaucoup les sucreries. Je mangeais tout le temps du sucre. Au bac, je me souviens, on m'avait autorisé, le surveillant là, de l'épreuve m'avait autorisé. J'avais une énorme boîte Haribo. Vous savez, les boîtes Haribo, là, les Tirlibibi, là, ou je sais pas quoi, là. Mais parce que je me concentrais comme ça. J'ai souvent eu besoin de manger pour me concentrer.
Et du sucre.
Et du sucre. Beaucoup de sucre, ouais. Et puis là, ça m'est passé. Maintenant, j'aime que le salé. Je craque moins pour du chocolat, pour un bonbon, alors qu'un crottin de Savignol, par exemple, peut me faire relever la nuit.
Est-ce qu'il y a des trucs qui vous dégoûtent?
Non, c'est vrai que souvent je m'aperçois que les gens sont plus dégoûtés que moi. Les gens ont plus d'aversion pour des choses. Moi, je tolère quand même pas mal de choses. Non, quand je me suis pris les eaux usées de la voisine du dessus, ça m'a dégoûté. Mais récemment, c'est la même chose. La seule chose.
Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût?
Non, pas tous. Il y a cette photo là de mes amis là de un voyage à Rome. On a fait un voyage. C'est un peu ma bande
dans
de
les
copains.
Dans les ponchos de pluie là.
Oui, on avait tous des ponchos et on s'est fait photographier devant je sais plus quoi.
Des ponchos de pluie et de couleurs, multicolores.
Oui, voilà. Oui, les espèces de kawaii que tout le monde a à Disneyland Paris par exemple. Et en fait, je regardais là et dans l'eau, il y a des gens qui ont mauvais goût. Enfin, il y a des gens pas qui ont mauvais goût, mais qui n'ont pas du tout de goût. Et non, je me suis jamais dit, enfin, Tommy, quand même, là, tu pourrais avoir. Jamais, j'adore. J'ai l'impression que quand j'aime quelqu'un, je considère qu'il a bon goût, forcément. Même si ça n'est pas le mien.
Vous parliez tout à l'heure juste de l'expérience d'être allé au défilé de mode et de pas savoir quoi dire, quoi faire. Est-ce que vous avez déjà eu des sensations comme ça de complexe par rapport à votre propre goût, en arrivant à Paris, par exemple
Oui, mais en fait, toujours. Hein. C'est compliqué, Paris. Paris, c'est une ville quand même méchante. Des fois, c'est vrai que ça m'arrive souvent de me dire « Ah, je sais pas si j'ai raison d'être là. Est-ce que je me sens un peu le plouc de la campagne ?» Souvent, encore. Le cinéma, par exemple. Le cinéma, moi qui suis pas... qui a été très tardivement cinéphile,
ouais.
Qui ne connaît pas tout Cassavetes, tout Piala, machin. Quand je me retrouve avec des gens de cinéma, je me sens le plouc de campagne et du théâtre. Ça peut m'arriver.
Vous complexez de ne pas connaître, en fait.
C'est pas ça, mais de pas avoir, ni d'avoir vu les bons films, ni d'avoir fait les bons films. Comme c'est pas ma vie, le cinéma, je ne sais pas du tout quel cinéma je veux faire. Je ne suis même pas sûr de vouloir faire du cinéma. Quand on me propose un scénario et que j'ai l'impression que c'est bien et que la rencontre va être enrichissante, j'y vais. Mais j'ai pas du tout de ligne ou d'ambition. Et du coup, souvent, je me dis, tiens, je suis entouré de gens qui ont beaucoup plus d'esthétique. du cinéma.
Et vous avez souvent dit, oui, que c'était le mode de vie du théâtre qui vous plaisait plus, c'est-à-dire d'aller jouer tous les soirs, de même, je sais pas, de voyager, d'aller dans des petites villes, d'aller dormir à l'hôtel, tout ça, enfin, d'être amoureux de ce mode de vie-là, que le cinéma moins. Mais vous disiez quand même que c'était les chansons d'amour de Christophe Honoré qui vous avaient donné envie d'être dans le film, quoi.
Oui, mais en fait, vrai, je pense que j'avais envie d'être dans le film, mais j'avais envie d'être dans la fiction, quoi. J'avais envie d'être au milieu de ce triangle amoureux, j'avais envie de chanter les chansons d'Alex Baupin.
Ça, c'est votre goût, quoi, vachement.
Ouais. Les films comme ça, qui font palpiter le cœur amoureux, le cœur adolescent. Voilà, ça, il y en a, ça, cela, mais ça m'a fait ça aussi. Les films de Dolan me font ça, même le dernier, Mathias et Maxime. Honoré fait ça à tous les coups. Les chansons de Vincent Delerme me font ça. Mon goût, c'est de sentir que j'ai mon cœur adolescent, que je suis encore ce type qui n'a jamais tiré sur un pétard, qui n'a jamais pris de première cuite, qui n'a jamais embrassé quelqu'un. Enfin, vous voyez, ça, ce truc-là de débutant, le goût des débuts.
Alors, Vincent de Dienne, pour vous, ça serait quoi avoir du goût ?
Moi, j'ai l'impression que c'est assez voisin de la gentillesse et de la politesse, pour moi, avoir du goût. Par exemple, quelqu'un de très chic, dans une soirée, quelqu'un de très chic, mais que je vois mal parler à quelqu'un, ou alors avoir une réflexion un peu désobligeante, mais parce que c'est chic, parce qu'un trait, par exemple, un trait d'esprit qui va venir gratigner quelqu'un, et où tout le monde va dire, ah oh là là, quel chic, quel panache ça, ben non, moi ça me glace et ça me détourne, en tout cas.
Ouais.
Mais quelqu'un qui va être à la hauteur de ce qu'on imaginait, quelqu'un qui va faire rigoler les gens, alors qu'il a peut-être pas forcément envie de rigoler, quelqu'un qui est de bonne humeur, même quand il l'est pas, qui est gentil, même quand il a envie de... Et puis qui est un peu solaire, qui en tout cas n'est pas pénible pour les gens, quelqu'un qui n'est pas ennuyeux. Moi, récemment, j'ai passé du temps avec des gens qui n'avaient pas d'humour, mais qui aimaient bien rire. Quand tu dis une connerie, ils rigolent, mais eux ne sont pas du tout drôles. Et ben ça m'a... c'était affreux. C'est affreux, j'ai trouvé le temps, j'ai jamais trouvé le temps aussi long qu'à ce moment-là. Et du coup, je me dis que le goût, c'est peut-être ça. C'est quand même un peu l'humour et le sens de faire passer aux gens un moment plus agréable que prévu.
C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Emmanuel Beau, préparé par Diane Lizarelli et Mélissa Fulpin et produit par Jean Ridéal pour M, le magazine du Monde. Ce podcast est désormais un accès libre. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour aller à la rencontre de notre invité, de notre goût. Si vous souhaitez soutenir Le Monde et le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.